Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, comment rendre crédible la catastrophe écologique ? En démissionnant de son poste de ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot espérait provoquer une prise de conscience collective. Une semaine après, elle se manifeste pour l'instant à travers deux initiatives. La première, une tribune signée par des personnalités du monde du spectacle qui demande aux politiques d'engager une action ferme et immédiate face au changement climatique. La deuxième, un appel à manifester ce samedi dans plusieurs villes de France, une série de marches pour le climat, idée lancée par un internaute et qui semble prendre une certaine ampleur. Alors si ce genre d'initiative est louable, qu'en est-il de leur utilité ? Le texte de la tribune publié dans Le Monde ne nous apprend rien. La catastrophe écologique est largement documentée. Impossible d'ignorer aujourd'hui que nous sommes confrontés au réchauffement climatique et à la baisse de la biodiversité. Pourtant, cette connaissance, ce savoir, a du mal à nourrir des changements de politique et de comportement. En 2002, au sommet de la Terre, Jacques Chirac avait eu cette formule célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». On pourrait dire aujourd'hui « Notre maison brûle et nous la regardons brûler ». Alors comment rendre crédible la catastrophe écologique ? C'est le sujet du soir en compagnie de trois invités. Dominique Bourg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, professeur à l'Université de Lausanne. Vous présidez le conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui est l'autre nom de la Fondation Hulot. Vous avez publié cette année chez Desclés de Brouwer Une nouvelle Terre. Et puis parmi vos autres ouvrages, je citerai notamment Du risque à la menace, Penser la catastrophe, ouvrage sous votre direction au PUF, que vous avez publié en 2013. Pour discuter avec vous, Jadeline Garde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste des questions environnementales. Aux éditions de La Découverte en 2014, vous aviez publié « Je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi », ouvrage dans lequel vous interrogiez justement à cette époque
sur la dissonance cognitive.
Voilà, et sur la difficulté à changer de modèle. Dissonance cognitive, c'est pas impossible que ce terme revienne dans la discussion ce soir, étant donné notre sujet. Et puis notre troisième invité est en duplex des studios de France Bleu Armorique à Rennes. Il s'agit d'Yves Cochet. Bonsoir.
Bonsoir.
Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, t'es entre 2001 et 2002, ancien député écologiste européen, et aujourd'hui vous présidez l'Institut Momentum, qui est un, alors c'est ce que j'ai lu sur le site internet, un laboratoire d'idées sur les issues de la société industrielle et les transitions nécessaires pour amortir le choc social de la fin du pétrole. Alors, je voudrais qu'on commence cette discussion avec vous trois, avec... Cette tribune donc a été publiée mardi dans Le Monde, qui est signée par plus de 200 artistes, des écrivains et des scientifiques, enfin essentiellement des artistes et des écrivains, qui est intitulée « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ». Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de cette initiative ? Est-ce que ça vous paraît utile en termes de mobilisation d'avoir des gens aussi populaires que Charles Aznavour, que Marion Cotillard, qu'Alain Delon ou que la chanteuse Louane pour éveiller, disons, les consciences, ou les réveiller, Dominique Bourg.
Oui, moi je n'ai aucun doute sur le fait que c'est très utile. En plus, la tribune était très très bien rédigée. Et puis, si vous voulez, le fait que ce genre d'information ne soit pas relayé toujours et sempiternellement par des chercheurs, je crois que c'est extrêmement important que des artistes aussi, à des titres divers, participe à cette fonction d'alerte. Je trouve que c'est très bien.
Vous êtes d'accord, Jadeline Garde ?
Pas trop, non. Moi, je suis très sceptique, en fait, sur l'utilité de ce genre de texte, pour la bonne et simple raison qu'en fait, des textes comme ça, on en a depuis des années. En fait, ça fait des années qu'on a des textes comme ça, très généraux, très généralistes, qui disent « c'est très grave ce qui se passe, il faut agir » et qui n'ont aucun effet politique. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient un effet politique ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur et incontournable, c'est celui de la mise en œuvre des actions et des politiques, et que des politiques ne pourront se mettre en œuvre que si arrivent aux positions de pouvoir des personnes qui peuvent mettre en œuvre ces politiques de changement, que montent toutes les expériences des alternatives, montent en échelle, etc., et qu'on n'en est plus du tout à des questions de textes, de people largement dépolitisés.
Je dois dire que je partageais un petit peu votre scepticisme quand j'ai lu cet appel. Parce que Dominique Bourg, moi je me suis dit, en fait, est-ce que ça aurait été pas plus intéressant, si ces personnalités, si des gens comme, alors je vais en citer d'autres, hein, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Sophie Marceau, avaient dit dans cet appel, bah voilà, nous engageons désormais, par exemple, je ne sais pas, à moins prendre l'avion,
voyez, à devenir végétarien,
par exemple, en tout cas, manger moins de viande, c'est-à-dire d'aller sur le terrain de l'exemplarité plutôt que sur celui de l'interpellation des politiques.
Si, bien sûr, mais l'un présuppose l'autre. Donc, vous venez de leur suggérer quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est pas mal. Ils devraient effectivement aller dans ce sens-là. Mais je suis, si vous voulez, on est sur un paradoxe. C'est vrai qu'il y a tout le savoir sur ce sujet et il y a une opinion qui reste extrêmement molle. Bah, ça fait un peu sortir de la mollesse. Alors on va pas en attendre des choses merveilleuses, mais c'est déjà quelque chose.
Vous êtes plutôt de l'avis de Dominique Bourg ou plutôt de celui de Jadeline Garde, Yves Cochet?
Oh, je partage ce scepticisme de Jadeline Garde parce que, en effet, ça n'est pas la première fois qu'on a des appels, même depuis des décennies. Je me souviens, par exemple, du sommet de la Terre à Rio en 1992. C'était au XXe siècle. Il y avait déjà eu beaucoup d'appels en ce sens. Et en fait, comme le disait encore Nicolas Hulot la semaine dernière, le bilan est plutôt négatif, non seulement de la dernière année en France, mais même, disons, des indicateurs globaux de la planète depuis 25 ans ou depuis plus. Donc, bien entendu, ça peut faire plaisir, mais je pense que tant que... Alors là, je diverge peut-être un peu avec Jadeline Garde. Ça n'est pas le maître des bonnes personnes qui ont de la volonté au gouvernement. Ça, il y en a plein de personnes de bonne volonté. C'est une question à la fois de psychologie cognitive, comme peut-être nous reviendrons dessus, et d'autre part, une question, disons, de d'ampleur des choses à réaliser. Et pour le moment, aucune structure de pouvoir, que ce soit à l'échelle régionale, municipale, nationale, européenne ou mondiale, n'a pris la mesure de l'ampleur et de l'urgence des choses à faire, pour des raisons, encore une fois, qui ne sont pas de la méconnaissance scientifique ou journalistique des problèmes, mais parce qu'on n'y croit pas, et on n'y croit pas parce que les autres n'y croient pas. C'est ça le paradoxe, et tant que ça sera comme ça, ça durera, donc je pense... que les choses pourront s'améliorer lorsque les dirigeants du monde, notamment, y compris ces artistes que nous connaissons et que nous aimons, eh bien, souffriront dans leur chair même, pas dans leur esprit en écrivant des beaux textes, dans leur chair du fait que l'état de santé de la planète Terre se dégrade.
Alors là, on est vraiment au cœur du sujet qui nous préoccupe ce soir. Je rappelle le titre de l'émission « Comment rendre crédible la catastrophe écologique ». Est-ce qu'il faut que cette catastrophe soit directement palpable? Est-ce que ça participe justement d'une meilleure compréhension et d'une meilleure appréhension des défis qui sont aujourd'hui face à nous, Jadeline Garde?
C'est vrai qu'on a quand même l'expérience intéressante, malheureusement et dramatique, de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Vous vous souvenez quand cet ouragan s'est abattu sur la ville de la Nouvelle-Orléans. Ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe qui a fait apparaître l'ampleur du racisme environnemental, par exemple aux États-Unis. Et ça a été hyper marquant. Aux États-Unis, et en termes d'énormes alertes et suivies de mobilisations quand même plus fortes qu'auparavant, de généralisation aussi de l'idée que effectivement le changement climatique, parce que le lien avait été fait, était quelque chose qui allait nous arriver. Et dans les mouvements de gauche européens même, ça a été un des moments où ça a fait progresser la compréhension du lien entre inégalité sociale, inégalité raciale et climat. Donc c'est vrai qu'on a cette expérience-là. Moi, malheureusement, il me semble que ce qu'on observe aussi après, c'est qu'il y a eu plein de catastrophes depuis climatiques. On a eu des incendies dévastateurs, y compris en Californie, qui est quand même une des régions les plus riches du monde, une des plus puissantes du monde. Et on a vu la vulnérabilité de ces Californiens face à un incendie à une échelle gigantesque. Et pour autant, Donald Trump a été élu à la présidence des États-Unis. Donc je pense que malheureusement, il n'y a pas de lien mécanique entre l'expérience d'une catastrophe et la décision collective d'agir pour le climat. Et pour le coup, je suis quand même hyper frappée par l'énorme problème démocratique qu'on a face à cet enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire on ne peut que observer que, mettons, au moins depuis 10 ans, il y a une popularisation du savoir sur le changement climatique. Il se généralise, tout le monde n'est pas au courant, mais enfin quand même, il y a eu un gros travail de popularisation, de médiatisation. Et pourtant, on n'a aucune majorité politique pour un changement radical de société au nom de l'écologie.
Alors ça, effectivement, on va essayer de comprendre pourquoi, en dépit de cette connaissance, finalement, le rapport de force, en tout cas le rapport de force politique, n'est pas à l'avantage des écologistes. Mais pour rester sur cette idée, disons, de contact direct avec la catastrophe, pour en mesurer son ampleur, Dominique Bourg.
Ça, je crois que c'est tout à fait capital. Et là, les choses sont en train de changer et c'est extrêmement récent. Donc, il est très difficile d'en tirer des leçons. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a parlé de catastrophes. Mais entre nous, à part de temps en temps pour un cyclone, personne ne vivait la catastrophe. En fait, si vous regardez les événements extrêmes, alors dans les événements extrêmes, vous avez les incendies, vous avez les inondations, vous avez les vagues de chaleur, sécheresse, les cyclones, j'ai dû faire le tour. Seuls les cyclones, depuis une dizaine d'années, sont sortis, si vous voulez, de la moyenne des cyclones passés, à telle enseigne qu'on s'interroge aujourd'hui sur la nécessité peut-être d'instituer une catégorie 6. Bon, et ça c'est tout simplement parce que l'essentiel de la chaleur piégée par l'effet de serre anthropique va dans les océans. Mais sur les autres choses, quand vous regardez inondations, incendies, vagues de chaleur, sécheresse, etc., vous trouviez toujours des températures, par exemple, des records précédents, etc., des inondations aussi importantes. Puis quand vous regardez du côté des historiens, alors là, aucun problème, si vous regardez ça sur plusieurs siècles, vous trouviez toujours ça.
Donc on pouvait relativiser la catastrophe parce qu'elle avait déjà eu lieu.
Oui, et puis il n'y avait que les cyclones qui manifestaient quelque chose. Le reste, non. Eh bien, ça, c'est en train de changer. Et il faut pas mettre en lien Katrina et puis les incendies de Californie. Les incendies de Californie, c'était l'hiver dernier. C'est pas il y a deux ans, quatre ans.
Il y a deux ans déjà, il y a eu des incendies terribles en Californie.
Oui, mais alors il y a deux ans, si tu veux, ça fait deux ans que les choses sont en train de changer. Parce que là, on est à 1 degré, 3 dixièmes au-dessus des températures pré-industrielles. C'est énorme. Et maintenant, on voit les phénomènes. Alors,
parce que c'est en train de changer dans la connaissance qu'on a de ces phénomènes, mais dans la perception individu lambda.
Mais attendez, c'est l'accumulation de ces phénomènes. Donc effectivement, des incendies gigantesques en hiver, on n'avait jamais vu ça. Des incendies gigantesques en Suède, on n'avait jamais vu ça non plus. Ce qu'on vient de connaître, ce que le Japon a connu cet été, au mois de juillet, les inondations qu'ils ont connues, on n'avait jamais vu ça. Un cyclone comme Harvey, on n'a jamais vu ça. C'est 180 milliards de dollars. Je rappelle que le coût moyen dans les années 80 de toutes les catastrophes naturelles aux États-Unis, c'est 3 milliards de dollars. Donc ça change. Et puis si vous prenez les records de température de l'hémisphère nord cet été, c'est partout où vous voyez les points rouges. Et vous avez des gens qui ont été paniqués cet été parce que pendant plusieurs jours, la température ne redescendait pas en dessous de 29 à 31 degrés dans leur domicile. Ça, c'est nouveau. Ne me dites pas c'est toujours comme ça, c'est idiot. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est en train de changer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la contradiction entre l'absence de politique réelle à l'échelle globale et puis ce que les gens ressentent, eh bien, c'était pas du tout visible, ils ressentaient rien. Ça va se ressentir d'année en année.
Est-ce que ça veut dire, pour vous Yves Cochet, que cette catastrophe ou ces catastrophes, pour les ressentir et pour en prendre conscience, il a fallu attendre qu'elles soient là? Ce qui peut être aussi d'ailleurs un peu encourageant de se dire, bah, finalement, la catastrophe, elle est là, il ne s'agit plus de l'éviter, mais d'être capable de s'y confronter.
Alors, d'une part, il faut s'interroger sur le fait de savoir si cette catastrophe, qui est un mot pour le moment au singulier, est vraiment déjà là, ou bien si ce sont les prémices du début, du commencement de quelque chose de plus énorme, ce que je crois plutôt. C'est-à-dire que, bien sûr, et je crois que Dominique Bourg a raison, les phénomènes qu'il a cités depuis quelques mois, quelques années sont nouveaux, avec l'ampleur qu'ils ont prise. Mais, je le répète, moi je vois les dirigeants européens, par exemple, les conseils européens, je vois monsieur Peugeot, monsieur Renault, monsieur Total et autres entreprises françaises. Ce qu'on va rechercher, c'est plutôt la croissance. On va discuter entre humains en pensant que la planète, bon, eh bien, avec un peu plus de croissance et un peu plus de technologie, on va résoudre ces petits problèmes passagers.
Mais ces dirigeants-là, ils sont pas ignorants de ces phénomènes.
C'est pas de l'ignorance. Comme disait un autre philosophe, Jean-Pierre Dupuis, ils ne croient pas ce que nous savons. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Nous savons, objectivement, avec les rapports du GIEC ou les rapports du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, que l'état de santé de la planète est très mauvais et ne fait que s'accélérer dans le mauvais sens. Eh bien, malgré tout, par exemple, on peut faire une comparaison entre le protocole de Kyoto, qui a maintenant 20 ans, et qui était un protocole contraignant, juridiquement contraignant à l'échelle internationale, et puis l'espèce de triomphalisme après la COP21, qui a 2 ans et demi, 3 ans, on disait, c'est formidable, quelle grandeur, la France, ça s'est passé à Paris, en Seine-Saint-Denis, etc. Alors que c'est pas un accord contraignant, c'est juste des déclarations politiques. Autrement dit, on a régressé en matière de lutte contre le changement climatique. Et d'ailleurs, comme l'a vu Monsieur Hulot la semaine dernière, on continue à émettre de plus en plus, y compris en France, et encore, on ne compte pas toute l'énergie grise qui vient des objets importés des régions asiatiques. Bon, donc je crois encore une fois que il n'y aura pas vraiment de solutions technologiques ou de solutions tant que la croyance partagée par les dirigeants de ce monde, qu'ils soient économiques ou politiques, c'est que plus de croissance et plus de technologie vont résoudre les problèmes. Or, c'est bien ça, le nœud de l'affaire, alors que moi, je suis... C'est pas... Pardon, on me dit, oui, mais vous, les écolos, parfois, vous êtes décroissants. Mais la décroissance n'est pas un problème, on peut dire, disons, d'opinion. C'est notre destin, on ne peut pas faire autrement. Alors, quand Monsieur Macron, avec d'ailleurs Monsieur de Rugy, qu'il a nommé il y a deux jours au ministère de l'Environnement, moi je connais très bien François de Rugy, je peux vous dire que pendant 4 ans, parce qu'il va s'accrocher 4 ans pour des raisons moins idiotes, eh bien il ne se passera rien, ça sera encore pire que le bilan négatif de l'année Hulot. Il ne se passera rien. Donc comment voulez-vous qu'on ait l'espoir qu'il y ait des décisions réelles? Non, il ne se passera rien avant que vraiment... Les cataclysmes, comme disent d'ailleurs nos amis artistes, ils parlent de cataclysmes planétaires, eh bien, nous touche vraiment, touche Monsieur Macron dans son fort de Brégançon.
Jade Lingard, cette croyance dont Yves Cochet nous dit qu'elle est largement partagée par les dirigeants politiques et économiques, est-ce qu'elle n'est pas aussi même beaucoup plus largement partagée par les citoyens que nous sommes, pas seulement en France, mais à peu près dans le monde entier, ce qui expliquerait justement que les... Si ce n'est les écologistes, en tout cas les thèmes écologistes et les politiques qui seraient véritablement écologistes, aient autant de mal à s'imposer politiquement. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce rapport de force totalement déséquilibré ?
Je pense qu'il y a vraiment un hiatus entre, d'un côté, une culture gouvernementale, bon, au moins en France, je ne voudrais pas trop me risquer sur une lecture internationale qui serait forcément un peu tronquée. Mais
parce que dans un article que vous avez signé il n'y a pas longtemps pour Mediapart, vous dites que le même blocage électoral s'observe aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Amérique latine.
Oui, alors, mais là, tout à fait. Non, mais tu sais, je ne veux pas avoir de me contredire. Il y a un hiatus entre une culture gouvernementale qui continue à considérer que le climat, l'effondrement de la biodiversité, le sort de la nature, c'est une question d'écologie. Et que ça, c'est d'un côté, donc c'est dans le paquet écologie, et que de l'autre, il y a les questions sérieuses, les sujets sérieux qui sont l'économie, les relations internationales et la question sociale. Là, il y a, ok. Et à côté de ça, on a depuis des années, mais c'est vraiment en train de monter en France depuis une dizaine d'années, une effervescence dans l'économie sociale et solidaire, le monde des alternatives, les AMAP, l'agriculture biologique, etc., qui sont des gens qui, où on retrouve des gens, des citoyens, des collectifs, mais aussi des municipalités, des autorités locales, des collectivités locales, etc., qui font se rejoindre en de mêmes projets économie sociale et écologie. Donc là, il y a un hiatus. Je pense que, voilà, il y a...
Et vous l'expliquez comment, ce hiatus?
Je pense qu'il s'explique de différentes manières, parce que c'est un truc assez complexe. Je pense qu'il y a il y a à la fois le fait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à considérer que les humains ne sont pas dans la nature. Et que voilà, et que donc les humains d'abord, voilà, l'humain d'abord et la nature après, que aussi on est aussi à un moment de difficulté économique, et que dans un moment de difficulté économique avec un chômage de masse depuis des années et des inégalités qui croissent, on a peur de perdre ce qu'on a. Et a fortiori quand on a très très peu. Et si on croit ce qu'on dit. Et si on croit ce que nous disent les chercheurs résumés tout à l'heure par Dominique Bourg, le changement qu'on doit apporter à notre économie et à notre société est gigantesque pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à hauteur de ce qu'il faudrait faire pour limiter le changement climatique. Ça veut dire un autre mode de production de richesse, un autre rapport au temps de travail, d'autres mobilités, beaucoup moins se déplacer, beaucoup moins de voitures, etc. Et que ça fait peur. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis sceptique sur la vertu pédagogique de l'idée de catastrophe et de l'idée d'effondrement, non pas pour dire que je ne crois pas qu'il y a une catastrophe, je pense qu'il y a effectivement des cataclysmes, mais je pense que politiquement, ce sont des idées qui peuvent démobiliser, qui peuvent être anxiogènes et au contraire, si vous voulez, renforcer les gens dans leur conservatisme.
Alors sur la peur justement de Dominique Bourg,
déjà avant de réagir sur la peur, moi je ne comprends pas ce qu'on est en train de dire, parce que c'est l'inverse qui serait étonnant. Ça fait des siècles qu'on a dit aux gens qu'on dominait la nature, que le progrès était forcément linéaire et absolument cumulatif. Après, on leur a raconté que effectivement l'économie pouvait permettre de tout comprendre et que c'était le cœur des choses et qu'il n'y avait pas de question de nature parce que les techniques étaient là pour la biffer et s'y substituer. Ça fait des siècles qu'on raconte ce genre d'ânerie. Vous attendez quand même pas parce qu'il y a un peu un soubresaut climatique que les gens vont remettre ça en cause. Donc on est sur un véritable mur qui est vraiment difficile. Et là, deux choses. Alors je donne complètement raison à Yves sur la question, si vous voulez. La question de la décroissance, c'est pas une question d'idéologie. Si vous regardez un rapport de l'ONU publié en juillet 2016, en fait, les flux de matière au monde croissent plus vite depuis le début des années 2000 que le PIB. Donc non seulement le développement durable est un gag parce que on n'a pas réduit les inégalités sur Terre, on a fait l'inverse. Et d'autre part, on n'a pas résolu les problèmes globaux, au contraire, ils ne cessent d'empirer. Hein. Donc il faut bien se mettre ça en tête. Donc on peut reparler de dissonance cognitive, mais là c'est une dissonance collective gigantesque. Et on va pas la résoudre en deux coups de cuillère à peau. Maintenant, sur la question du catastrophisme et son côté démobilisateur, non. Il y a une très bonne thèse qui était parue de Luc Semal. Moi, je vais le publier en tant que livre au PUF là, dans quelques mois. Non, si vous voulez, en plus, il faut pas dire la catastrophe. On a une chronique catastrophique qui maintenant commence à se nourrir, comme je l'ai rappelé, et qui va s'intensifier. Quand les gens n'arrivent pas à manger, vous avez des émeutes de la faim. Là, quand les problèmes vont s'intensifier et sont partis pour, s'il n'y a pas d'action en face, il y aura aussi des émeutes.
Sur le site AOC, Analyse Opinion Critique, il y a un article très récent d'un de vos collègues philosophes, Dominique Bourg, Pierre-Henri Castel, qui évoque justement cette dimension et l'effet que peut avoir le catastrophisme. Et je vous poserai la même question à vous, évidemment, Yves Cochet. Il dit notamment ceci, que ce sont des discours qui non seulement peuvent être anesthésiants, mais même avoir des effets contraires à ce recherché. La certitude de la fin pourrait bien nourrir, et nourrit sûrement déjà, des options morales et politiques qui précipitent la fin. Car si tout est perdu, qu'est-ce qui nous empêcherait de jouir de la façon la plus effrénée, la plus dévastatrice ?
Mais justement, là, il y a un malentendu total. Moi, je ne vous parle pas de la catastrophe, je ne sais pas ce que c'est. Je vous parle d'une chronique d'événements de plus en plus difficiles, de plus en plus durs à assumer. D'une part, ce sont des événements qui se répètent et qui vont croissant. Dans cette espèce d'imaginaire démobilisateur, on a l'idée qu'à un moment donné, tout s'arrête. C'est le jour d'après, voilà. Toutes les villes se glacent et on n'a plus rien à bouffer. Mais c'est débile. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est des difficultés qui vont aller de façon croissante.
Eh ben, je sais pas si je suis débile, mais en tout cas, j'ai pas dit que c'est ce que vous disiez. Non, c'était juste pour rebondir, pour faire rebondir aussi Yves Cochet. Mais alors, il y a une autre tribune que je voudrais citer. Ben, c'est vous qui l'avez signé, Yves Cochet. C'était il y a un an, dans Libération. Moi, j'ai trouvé assez démobilisatrice, en tout cas extrêmement anxiogène. Tribune dans laquelle vous dites, aujourd'hui, il est trop tard, l'effondrement est imminent, et vous nous expliquez ce qui nous attend pour les prochaines décennies, avec notamment la décennie des années 2030, qui va être terrible, avec énormément de violence et une explosion des inégalités. Qu'est-ce que vous répondez justement à ceux qui, peut-être comme moi, vous disent une fois que je lis ça, moi je suis totalement décontenancé, totalement démoralisé?
Alors, je ne crois pas. Je crois que, d'une part, évidemment, rien n'est sûr, mais enfin, on a de plus en plus, disons, de preuves que la catastrophe est encore une fois beaucoup, à une échelle plus importante que celle que nous avons citée, va arriver. Alors, moi, je dis la catastrophe, ça peut être les catastrophes, si vous voulez, mais qu'il y aura un effet, on peut dire, systémique, planétaire, global, qui fera que... par une sorte d'effet domino, eh bien aussi bien le système politique, économique, financier, écologique, social, les relations internationales peuvent se déliter en quelques temps. Alors, dans cet article de l'an dernier, je disais à peu près, oui, que dans les années 20, disons, la prochaine décennie, cet effondrement systémique et général va advenir, sous une forme, moi je suis pas Madame Soleil ou Nostradamus, enfin sous une forme, certainement en tout cas, comme disent nos amis artistes, la plus grande épreuve qu'ait jamais vécue l'humanité, que dans les années 30, en effet, eh bien on oscillera entre la barbarie et puis l'instinct de survie collectif, et la démocratie et les valeurs auxquelles nous tiennent, et puis peut-être dans les années 45 ou 50, en 2050, eh bien il y aura une renaissance avec un sursaut de la jeunesse. Mais je ne vois pas qu'on puisse y échapper. C'est peut-être la différence que j'ai avec Dominique et avec Jade, c'est que moi je ne suis pas simplement alarmiste, je suis collapsologue au sens que j'ai la certitude que cet effondrement, que je peux décrire d'ailleurs un peu plus précisément avec des critères, va arriver et que là, aucune politique publique, même 99,9%, personne n'y pense. Et c'est d'ailleurs une des raisons de psychologie cognitive dont je parlais, c'est parce que personne ne l'envisage que ça va arriver, Contrairement à ce que disait notre ami Jean-Pierre Dupuis, voilà une quinzaine d'années, avec le catastrophisme éclairé, il disait « la catastrophe est inévitable, donc on va y penser et donc elle va être évitée ». Moi, je pense le contraire.
Jade Lillegarde.
Moi, je me demande, en fait, dans quelle mesure est-ce que on pourrait pas imaginer un moment là politique où on aurait une complémentarité entre le discours d'Yves Cauchet qui dit voilà, il y a une catastrophe, il y a des catastrophes qui viennent, qui sont déjà là, et c'est un fait, c'est un fait naturel, mais qui va devenir un fait social de plus en plus voilà important, et tout en ayant à côté un autre travail qui est un travail de politique, au fond, de mobilisation d'une société, et qui essaie de se demander comment faire entrer les unes et les autres en action. Et moi, il me semble que là, il faut revenir à des choses finalement très simples. On pourrait imaginer revenir à des choses hyper simples. Qu'est-ce qui fait entrer les gens en action? Qu'est-ce qui les fait se mobiliser? Eh ben, il faut qu'ils aient un intérêt à agir. Il faut qu'ils aient quelque chose à gagner. Et c'est moi, c'est ça mon scepticisme sur la pédagogie politique de la catastrophe.
Mais un intérêt individuel.
Ou collectif. Oui,
c'est une vision utilitariste de l'espèce humaine.
Attends, non, mais pour préciser. Et donc, par exemple, aujourd'hui, être hyper empirique, dans notre société française aujourd'hui, de quoi plein de gens ont besoin? Ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin d'un revenu nécessaire pour vivre, ils ont besoin d'un travail digne, où ils se tuent pas au travail, où ils s'empoisonnent pas au travail. Regardons les paysans et la mortalité chez les paysans à cause des pesticides. Ils ont besoin d'un air qui puisse respirer en ville, qui soit pas mortifère, qui soit pas l'air pollué qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont besoin d'espace de liberté. Et moi, il me semble que politiquement, c'est plutôt ça qu'il faut travailler aujourd'hui pour faire entrer les gens en action, parce que ça correspond à des intérêts et à des besoins réels. Et
donc, pour que les gens se préoccupent du climat, il faut d'abord leur donner du travail.
Il faut penser ce moment de catastrophe écologiste dans la société telle qu'elle est. Et la société telle qu'elle est aujourd'hui, elle est inégalitaire, elle est dure, elle est violente et elle est frappée par ces problèmes d'inégalité et de chômage de masse. Il faut répondre à ça. Or, la bonne nouvelle, c'est que les politiques de transition écologique, les scénarios de transition énergétique, ils travaillent là-dessus. Emploi durable, relocalisation de l'activité, protection, sortie du circuit des véhicules les plus polluants. Donc, en fait, c'est réconciliable. Moi, il me semble que c'est plutôt ça, prioritairement, à mettre en avant politiquement, que uniquement des formes de prophétie.
Je reviens tout de suite vers vous, Yves Cauchet, mais avant cela, Dominique Bourg.
Moi, je suis un peu sceptique par rapport au discours sur l'intérêt, parce que si on regarde ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas la question des intérêts, sinon vous ne comprenez pas ce qui se produit. Si vous prenez les États-Unis, il y a une colère d'une couche de la population. En fait, depuis les années 80, le salaire des classes moyennes, enfin les revenus des classes moyennes et leur pouvoir d'achat aux États-Unis n'a pas augmenté. Hein, la richesse va toujours aux plus riches. Et le gag, c'est que c'est Trump qui capte cette colère et qui l'oriente dans un sens très étonnant, puisque sa réforme fiscale, ça va rendre ces Américains-là plus pauvres encore. Et ils en sont très contents. Donc si on était dans une logique d'intérêt...
Si Trump, il
devrait pas encore avoir 40%, il devrait avoir 10% de votants.
Mais ça veut dire quoi, par exemple, que vous ne croyez pas à l'arme, par exemple, de la fiscalité écologique, Dominique Bourg? C'est-à-dire de dire, il y a certaines aussi mesures qui peuvent être des mesures politiques qui récompensent, en tout cas, ou qui pénalisent en fonction de son comportement.
Ce qui m'inquiète, c'est que on va devant des difficultés physiques, c'est évident, et qui vont aller de manière croissante. Alors, maintenant, précède ces difficultés physiques, précède en Occident, d'une certaine manière, une sorte d'effondrement moral. Enfin, qu'on ait pu élire quelqu'un comme Trump, enfin attendez, c'est un fou furieux, un cinglé, un ignare, ça a encore été rappelé très récemment. Bon, ce type est élu. Et il est le président des États-Unis.
Sur des thématiques sociales, d'ailleurs.
Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Parce qu'il a capté la colère. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans la plupart des pays d'Europe? Vous voyez l'extrême droite qui a le vent en poupe. Bon, j'ai appris encore que là, le gouvernement autrichien vient de restaurer la possibilité d'avoir une journée de 12 heures de travail. Vous m'avez bien entendu. Donc, il y a une espèce de délitement, d'effondrement moral, qui fait que on est envahi par des passions tristes, mais que de très bons capteurs savent orienter en un certain sens. Et derrière ça, alors je suis en train de donner de l'eau au moulin d'Yves, derrière ça, effectivement, arrivent de grosses difficultés sociales. Donc, je pense que le discours simplement raisonnable, si vous voulez, du jeu de l'intérêt, à partir du moment où on a placé les gens dans certaines conditions, ça ne marche pas. Ils vont marcher sur la passion. Et quand vous avez des émeutes de la faim, c'est l'expression d'une colère. Il n'y a absolument aucune solution qui va avec. Et on va rentrer dans quelque chose comme ça. Et effectivement, ça, c'est relativement inquiétant.
Il y a un article très intéressant qui a été publié aujourd'hui sur le site Reporter, qui pose à peu près la même question qu'on pose ce soir. Oui. Pourquoi le drame écologique mobilise-t-il si peu? D'ailleurs, vous êtes interviewé dans dans cet article, Dominique Bourg. Oui. Il y a également une chercheuse en neurosciences qui s'appelle Sylvie Granon, qui explique notamment, alors justement, du point de vue des neurosciences, comment le changement est difficile à appréhender et à apprivoiser. Elle dit que c'est extrêmement énergivore et stressant pour l'organisme qui va essayer de diminuer l'impact de ce stress en adoptant les comportements les plus rassurants possibles. Ça pose vraiment la question de la nature du message qu'on délivre pour éveiller les consciences, Yves Cochet.
Alors, en effet, peut-être que c'est la psychologie sociale, peut-être les neurosciences, peut-être l'étude de notre appareil cognitif qui pourrait éventuellement changer des solutions réformistes où on dit, eh bien, écoutez, votez pour nous, ça ira mieux demain, ce qui ne marche pas puisque ça va plus mal, aussi bien du point de vue des inégalités sociales que de l'état de santé du système Terre. Alors, bon, par ailleurs, nous sommes quand même une espèce qui est dans le grand jeu de l'évolution. Et je pense que par rapport à ce qui s'annonce au point de vue du cataclysme, comme disent nos artistes, ou bien de la catastrophe, de l'effondrement, notre appareil cognitif qui vient de cette évolution n'est pas adapté pour comprendre l'ampleur et la rapidité de la chose. Et donc, il y a une sorte de difficulté qui n'est pas une difficulté de communication, d'information, de programme politique et tout ce que vous voulez. Je le fais depuis 40 ans, par ailleurs. Mais qui est une difficulté qui est intrinsèque, on pourrait dire, à l'espèce humaine en tant que, comme disent les artistes encore, jamais on a vu un tel défi. Eh bien, jamais on a vu un tel défi à cette hauteur-là, qu'est-ce qui gagne? Ce sont les forces naturelles, c'est pas les forces de discussion très diplomatique et très civilisée entre humains, hélas. Et donc, tant qu'on discute entre humains, on pourra trouver des compromis, alors avec, au niveau européen, au niveau mondial, COP21, tout ce que vous voulez. Ça ne changera pas le problème, car c'est pourquoi je crois assez fermement, notamment à l'urgence, c'est-à-dire que ce que proposait Jade Lingard, ça prend du temps, tout ça, hein. Et puis, moi, je dis, en combien de temps on peut faire ça, changer de telle politique, disons, abattre le libéral capitalisme et le remplacer par un système, agro-écologique sympathique? C'est pas tout de suite qu'on peut le faire en 2 ans. Bon, or je pense qu'on n'a plus le temps, on n'est plus maintenant dans l'énoncé de programme souriant, on est dans le compte à rebours avant l'effondrement, donc du point de vue politique. Et pourquoi cet effondrement est inéluctable? Précisément à cause de notre appareil cognitif. Personne ne peut, comme disait le philosophe Günther Anders, penser sans arrêt à un phénomène qu'on peut appeler supraliminaire, c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire qui est impossible à intégrer dans nos circuits neuronaux.
Alors justement, pour rester sur la dimension cognitive, il y a une discipline qui, a priori, sait très bien manier les messages, c'est la publicité. Moi, je me disais que est-ce que la publicité ne pourrait pas aussi servir à ça. Et je voudrais vous faire écouter juste un extrait de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Nicolas Hulot. C'était il y a quelques années, 2015. Il fait une petite vidéo sur Internet où il se met en scène face à une fausse agence de communication. Ça s'appelle Break the Internet et c'est une réflexion, comment essayer de faire passer le message auprès des jeunes.
Salut à tous, je sais pas si vous avez remarqué, mais on nous bassine à longueur d'année avec les changements climatiques parce que 2 degrés sur la planète entière, ça va être une situation catastrophique.
La fonte des glaces va faire disparaître des îles et des côtes entières.
Ça va pas? Je fais pas comme il faut?
Non, c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Internet, hein. C'est pas une mauvaise idée.
Si, c'est clairement une mauvaise idée.
Et puis surtout, Dev l'a déjà fait.
Bon, Nicolas a fait appel à nous pour qu'on trouve quelque chose d'original pour sensibiliser Internet. C'est pas pour faire un lip-dub.
Je pense que si on veut agir plus efficacement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, maintenant c'est la responsabilité des politiques.
Et c'est pour ça qu'on est là. Il faut les secouer. Il faut qu'on trouve une idée qui mobilise un maximum de personnes et qui soit partagée dans le monde entier. Un message clair, quitte à frapper du poing sur la table.
C'est maintenant, messieurs les dirigeants, qu'il faut agir. Demain, ça sera trop tard. De toute façon, c'est trop tard déjà.
Stop, Nico, stop! Tu sais pas y faire, laisse-moi faire. Salut, bande de salopes des gouvernements du monde! Si vous vous mettez pas d'accord, et ben voilà ce qui va se putain de passer! Bat! Merde, la planète, elle a un bobo!
Trop violent, faudrait qu'on parte sur un truc plus doux.
Enfin, peut-être tout simplement, je sais pas, délivrer un message sobre, et efficace, à l'américaine, non?
Non, mais t'es sympa, hein, Nico, mais chacun son métier.
Voilà, on a remis cette vidéo sur notre, sur la page de notre site. Il y a un côté gag, évidemment, Dominique Bourg, mais c'est plus profond que ça, hein, finalement.
Non, la difficulté qui est derrière, elle est énorme. Alors, je reprends ce que rappelait Yves tout à l'heure. C'est vrai que nous, le procès d'hominisation nous a amené à réagir à des dangers qui étaient, qu'on pouvait appréhender par les sens. Là, ça commence à venir, c'est ce que je vous disais. Mais surtout, il y a autre chose. C'est-à-dire que là, quand on voit ce qu'il faudrait changer, c'est systémique. Et ça, c'est effectivement très difficile. On n'a pas envie, s'il faut tout changer, j'y arrive pas, quoi. Et donc, le message politique, c'est d'arriver à trouver des biais pour essayer de sortir de l'ornière. Parce que si je dois tout changer à la fois, je panique et j'y arrive pas.
Mais est-ce qu'on a quand même des exemples de messages ou de biais qu'on a trouvés qui se sont, comment dire, traduits par le succès? Avant d'entrer en studio, je vous parlais de la couche d'ozone. Là, manifestement, ça a fonctionné. En tout cas, le constat scientifique, c'est que le trou de la couche d'ozone, on a réussi à stopper.
Oui, mais c'était un problème technique. Il y avait précisément, c'était pas un problème systémique. On avait affaire à une technique qui détruisait la couche d'ozone. On a changé cette technique de façon assez curieuse. Puis dans un premier temps, on a mis des substituts qui étaient plus destructeurs. Enfin bon, on a fini par y arriver. Mais cela dit, vous savez, la couche d'ozone, ça va pas beaucoup mieux. Hein. Bon, donc ne me donnez pas ça comme, si vous voulez, comme réussite. Mais si vous regardez ce qui s'est fait autour des villes en transition, etc., au début, hein, dans les années 2008, 2009, 2010, bah non, on réunissait les gens autour de choses pas très drôles à entendre, et puis justement, on essaie de trouver des biais pour sortir avec un biais. Si je dois tout changer sur tous les plans, je vais pas y arriver. Si je prends des actions assez efficaces de biais, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Il faut orienter à la fois l'action et la passion.
Il y a quand même 1000 exemples aujourd'hui. Moi, je pense que c'est pas une question de temporalité, contrairement à ce que disait Yves Cochet quand il dit c'est trop tard. Je pense que c'est une question d'échelle. Et en fait, on a 1000 exemples aujourd'hui d'échelle locale, d'action efficace, systémique au niveau local. Je sais pas, je prends un exemple récent, les transports gratuits à Dunkerque, les villes zéro déchet, la politique zéro déchet d'une ville comme celle de San Francisco, par exemple. Toutes les politiques de lutte contre les pollutions dans les villes européennes sur lesquelles Paris est super en retard. Les quartiers qui s'organisent pour récupérer leurs déchets, monter des coopératives alimentaires, etc. À chaque fois, on va dire, mais c'est dérisoire par rapport à l'ampleur du dérèglement climatique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est dérisoire. Il faut bien prendre les choses par un bout. Et moi, je pense que quand on voit cette effervescence locale, municipale, la vogue de nouveau de l'idée du municipalisme, on relie aujourd'hui Murray Bookchin, cet anarchiste écologiste américain, qui disait ça. Le changement, en fait, c'est à l'échelle locale. On ne peut plus rien attendre des gouvernements. D'abord, les gens, l'abstention a beaucoup augmenté. Ce n'est pas l'échelle nationale, c'est cette échelle régionale. Elle est hyper insuffisante, elle a 1000 défauts, mais elle a aujourd'hui, on ne peut que le constater, des vertus mobilisatrices. Et ça permet de se dire, c'est pas dans deux ans, c'est dès maintenant que plein de ces politiques et plein de ces expériences se déroulent. Donc c'est déjà là, en fait.
Eh bien, si vous le voulez bien, c'est sur cette note relativement optimiste, on va dire, que
nous
allons
nous quitter
ce soir. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jade Lingard, je renvoie à vos articles sur Mediapart. Yves Cochet, je rappelle, vous présidez l'Institut Momentum. Ben, on peut aller voir de quoi il s'agit sur Internet. Et puis Dominique Bourg, ben, votre dernier ouvrage, hein, chez Desclés de Brouwer, Une Nouvelle Terre. Vous l'avez publié cette année. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Je vous renvoie également à la semaine de Culture Monde. Ce sera la semaine prochaine, donc à partir de lundi, qui de lundi à jeudi sera consacrée aux questions environnementales et écologiques. C'est tous les jours, de 11h à midi. C'est présenté par Florian Delorme. Merci à l'équipe du Grain, Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richet, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son Clément Daté.